Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, dont Estelle Midi, avec aujourd'hui, vendredi, autour de la table, Rémi Barré, le journaliste de Marianne Perico-Légas, la militante associative Lumière Lapré et le désormais propriétaire de gîte Jérôme Lavrieux. On vous attend nombreux au 32-16 pour parler de cette productivité qui baisse en France depuis le Covid. Est-ce qu'on est devenu feignant, tiens, depuis 3 ans? Dites-nous ce que vous en pensez. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On se demandera, tiens, s'il faut espérer un remaniement du gouvernement. On en parle beaucoup et Jérôme Lavrieux a son petit avis sur la question.
Liste avec moi, je vous la donne. Voilà.
Exactement. À 14h, taxes qui explosent, refus de prêts, grogne des habitants. Est-ce la fin des résidences secondaires en France? Et puis, il y aura également RMC s'engage pour vous. À 14h30, on prendra des nouvelles de Maxine. Maxine, c'était cette adolescente gravement malade dont l'histoire nous avait bouleversé il y a quelques mois. Elle attend toujours une greffe de moelle osseuse et on va tenter de se mobiliser un maximum pour justement sensibiliser des donneurs potentiel. Et puis on vous offrira des places pour la Coupe du Monde de rugby dans cette émission RMC.
Oui, sur RMC avec Total Energy, sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby 2023. Eh bien, nous vous offrons des places pour les plus belles affiches de cette compétition qui se déroulera en France. Dès que vous entendez ce signal, ça peut tomber à tout moment et à partir du moment où vous l'entendez, donc vous avez 5 minutes pour envoyer coupe par SMS au 7-32-16. Coupe par SMS au 7-32-16. Le nom du gagnant sera dévoilé dans le Super Moscato Show.
RMC Estelle Midi.
3 sur RMC et on va poursuivre Estelle Midi avec le constat du jour. Les salariés français sont moins productifs depuis le Covid. La productivité horaire a reculé de 2,4% en France alors qu'elle dépasse son niveau de 2019 en Allemagne ou encore en Italie. Rémi, est-ce qu'on peut se dire que tout ça c'est lié au droit à la paresse cher à Sandrine Rousseau? Pourquoi est-on moins productif?
Alors pour les explications, l'INSEE avance plusieurs possibilités. En tout cas, c'est sûr, tu l'as dit, hein, une baisse de 2,4%. Ça, c'est pour la productivité horaire. La productivité par travailleur, elle a baissé de 3,8% par rapport à 2019, année de référence avant la crise sanitaire. Dans le domaine, la France est derrière l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, des pays dont la productivité, elle, est en hausse. Et un autre récent rapport établi cette fois par la DARES, la direction des statistiques du ministère du Travail, va dans le même sens. Alors même qu'avant la crise Covid, la productivité au travail en France était en hausse, légère mais constante, depuis 2015, c'est ce qui n'est pas sans conséquence, hein, d'après le Conseil d'analyse économique, organisme rattaché cette fois à Matignon, au Premier ministre, sur la période 2006 à 2019, la France a perdu 7 points de PIB par habitant par rapport à l'Allemagne, et la baisse de la productivité explique 5 points, donc sur ces 7 points de baisse, et parmi les explications, il y en a diverses, mais certaines avancées par l'INSEE notamment, c'est le recours excessif, peut-être en tout cas le recours amplifié à l'alternance en France, qui fait qu'on a un certain nombre de personnes qui sont considérées comme salariées en alternance, mais qui forcément par définition sont moins productives puisque ce sont des jeunes qui débutent dans leur travail et qui ont donc moins de compétences, moins de rapidité.
Est-ce qu'on est devenu feignant, Perico-Légas?
Je n'utiliserai pas ce terme.
La valeur travail?
Même si, la valeur travail. Je connais.
J'avais misé un peu d'argent là-dessus.
C'est vous qui l'avez dit. Voilà. Le travail est une valeur.
Oui.
Le travail est une valeur. La famille aussi. Oui.
La patrie, vas-y, va au bout. Hein.
Ouais. Mais faut pas les utiliser ensemble.
La paresse, non?
Ça a une connotation. Alors, la paresse est devenue une revendication sociale.
Toujours été.
Est devenue même un projet politique. C'est devenu une éthique de comportement. La productivité, c'était la force de l'économie française. C'était ce qui nous distinguait des autres puissances économiques, qui avaient d'autres avantages. Nous, c'était la productivité, on était efficace sur le plan de travail, et c'était un atout majeur, qui depuis longtemps a fait la différence de l'économie, et qui nous permettait, sur certains retards, de rattraper justement de l'efficacité grâce à ça. Là, on a tapé politiquement sur cette productivité, parce que la gauche... pour des raisons tout à fait respectables, d'humanisme, d'angélisme, de générosité, a dit, mais le travail, finalement, c'est une forme de soumission, ça enrichit que les riches. Donc, et Benoît Hamon en a fait sa campagne présidentielle. Voilà.
Le revenu universel.
On a trouvé revenu universel. Et aujourd'hui, on le paye très cher. Et oui, aujourd'hui, alors, il y a une baisse des compétences, parce que l'éducation et l'université ne produisent pas autant d'ingénieurs et de, j'allais dire, de salariés compétent et bien formé.
On peut être compétent sans être ingénieur.
Je parle à tous les échelons, même au niveau supérieur, on n'a pas la pertinence et la perfection qu'il y avait dans l'éducation française. Et puis, d'une façon générale, effectivement, on a des leaders politiques qui expliquent que c'était exploité. Donc voilà. Donc, et alors, la paresse aujourd'hui, je connais des gens, et on a eu
on a eu un thème
sur ici, où il y avait des gens où nous demandions, est-ce que vous êtes d'accord pour travailler moins, parce que c'est pas la peine de faire des efforts, d'avoir de la conscience professionnelle, d'avoir de la rigueur, puisque ça n'enrichit que le patron. Donc j'ai le droit d'en faire le minimum. Et aujourd'hui, on est dans un pays où le fait d'en faire le minimum est une revendication.
Enfin, moi, je ne connais pas les gens qui ont mis d'en faire un minimum. Excusez-moi.
Il y en a beaucoup, je peux vous dire.
Vous les connaissez?
Beaucoup. Oui.
Ah bon, on va écouter.
Je vais pas les dénoncer là, mais ils existent, ils sont là, et je peux vous dire.
Ne les dénoncez pas. Loumire Lapré lève les yeux au ciel depuis le début de la tirade de Perico Légas. Est-ce que finalement c'est un mal qu'on soit devenu, on va dire, moins productif, Loumire?
Bon, alors déjà, l'INSEE explique quand même qu'on n'est pas devenu moins productif, mais que les chiffres sont faussés parce qu'il y a la prise en compte des alternants.
Oui.
Et parce qu'on a déclaré des gens pendant le Covid pour qu'ils puissent toucher le chômage partiel alors qu'ils n'étaient pas déclarés avant. Donc les chiffres disent qu'on n'a pas de sujet de baisse de la productivité en France. Donc en fait, c'est un non-sujet. Par contre, ce que je vois,
c'est pas tout à fait ce que dit l'INSEE.
Minoré par rapport à... Il n'y a pas une crise de la productivité française. Sachant qu'on était déjà, les plus productifs ou presque d'Europe.
Ben on l'est plus.
Il n'y a pas un problème de productivité en France. Les gens ne sont pas tout à coup devenus feignants. C'est faux. Moi, quand j'entends ça, je pense à tous les gens, tous les premières lignes, tous les gens qui ont bossé pendant le Covid, tous les gens qui se mobilisent en ce moment pour pouvoir continuer à être efficace au travail. Et pour être efficace et productif au travail, il faudrait surtout, si possible, ne pas avoir 64 ans, parce qu'à 64 ans, on est crevé.
Merci.
Ah ben si, mais moi je suis pour la retraite à 60. Donc
à 60, on n'est pas crevé. Et à 55.
Moi je suis bon.
Mais si, aussi. Aussi, mais tu entends 32, bien que il y a quand même une différence entre 55 ans et 64 ans, non?
Oui, mais entre 63 et 64,
c'est 54 ans, donc je te dirai ça dans 10 ans.
Voilà. D'accord. Bon, bref, les chiffres le disent eux, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir son avis.
Moi j'ai pas vu qu'il y avait une surmortalité entre 62 et 64 ans.
Du coup, je veux bien parler sans que tout le monde me coupe la parole en permanence.
Je suis pas du tout crevé, j'ai 64 ans, je vais très bien.
Mais c'est bien pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as travaillé en usine, Perico? C'est quand la dernière fois que tu as travaillé?
Il n'y a pas que le travail. Non, mais alors ça m'agace. Il y a pas que le travail en usine qui est fatigant.
Il y a du travail qui est plus pénible que d'autres.
Non, il y a du travail qui est plus pénible physiquement que d'autres. Oui, mais psychologiquement, tu as aussi des gens qui sont derrière un bureau
et qui ne sont pas
à l'usine et ce sont des boulots fatigants.
Mais d'ailleurs,
tu ne peux pas prendre en compte que la pénibilité physique.
Pour eux aussi, je veux la retraite à 60 ans. Donc moi, je suis assez cohérente sur ce sujet. Pour revenir à ces accusations que la France serait feignante, Perico, je pense que si on te pousse jusqu'au bout, tu vas nous dire c'est surtout les jeunes, parce que c'est un peu ton grand marronnier. C'est nous, la génération de gens feignants.
C'est une évidence scientifique.
Ah voilà, d'accord, très bien. Donc en fait, comme je suis la seule jeune autour de cette table, comme très souvent...
T'es pas jeune, t'as 30 ans, excuse-moi. Un jeune, c'est pas 30 ans, c'est 18-20 ans. Tu travailles, t'as une maison, une voiture.
Non, t'es une ex-jeune.
Je suis une ex-jeune, d'accord. Alors, je suis la plus jeune de ce plateau. C'est très fatigant d'entendre cette accusation de fainéantise à notre égard.
C'est fatigant, alors.
Laissez-la, arrêtez.
Non, mais c'est pas très drôle en fait quand même, parce que moi j'essaye d'avoir une parole un peu sérieuse sur le sujet et vos réponses elles sont déconsidérer le propos. Je crois que en réalité on vient d'établir qu'il y avait pas vraiment de problème. Donc moi ma question c'est pourquoi les chiffres de l'INSEE. Donc ma question c'est pourquoi est-ce qu'on s'obstine à vouloir faire de ce sujet un sujet politique? Ça n'en est pas un.
Qui a dit que c'est un sujet politique?
C'est
un sujet sociétal.
Non, mais en fait non,
littéralement
pas cette histoire. C'est pas parce que Sandrine Rousseau une fois a dit le droit à la paresse. Déjà Sandrine Rousseau ne représente pas la totalité du camp de gauche.
On peut juste citer une phrase comme ça. On a le droit de faire du second degré. C'est possible.
Le camp de gauche, en l'occurrence, est le camp de la défense du travail, que la défense du droit à la paresse, qui
Est-ce
peut
que
être.
Tu peux répondre à la question?
Ouais, non, il n'y a pas de problème de fainéantise en France. En fait, c'est juste.
On en fait autant qu'avant.
C'est juste pas vrai. Oui, d'accord. Et peut-être que, par contre, ce qu'il y a, je crois, c'est ça qui est, qui a qui est né avec le Covid et qui a été amplifié, c'est une vraie question de la crise de sens, de à quoi ça sert de travailler. Et tout le monde ne pense pas non qu'on ne travaille que pour enrichir des patrons. Il y a plein de gens qui sont heureux d'aller au travail. Il y a plein de tout le monde travaille pas dans le CAC 40. Bah oui, voilà. Donc en fait, je crois que personne ne se dit ça. Par contre, il y a une vraie réflexion à avoir, je crois, sur à quoi sert notre fosse productive. Et d'ailleurs, tous les entreprises qui ont testé les 4 jours, vous allez hurler, oh mon Dieu, encore la gauche qui veut nous faire travailler moins.
Ici, on hurle pas contre la semaine de 4 jours.
Sont contents et disent que les gens sont plus productifs quand ils travaillent moins parce qu'ils travaillent sur des périodes plus ramassées.
Mais personne n'a dit qu'il fallait pas changer notre mode de travail. Hein. Personne n'a dit ça.
Ah bah si, parce que Péricot, il dit, oh là là, les 32 heures, oh c'est la gauche qui a détruit le rapport au travail.
En Grande-Bretagne, c'est la semaine de 4 jours qui a été tentée avec 36 heures. Donc, et t'es pas obligé de faire 32 heures en 4 jours. Tu peux aussi faire 36.
Je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est que ce serait intéressant de prendre ce sujet autrement que les Français sont devenus feignants. Parce que vu tout ce qu'on vient de vivre ces 3 dernières années, je pense qu'on peut nous accuser de tout, mais pas de feignantise. Mais par contre, de dire à quoi ça ressemble le rapport au travail en 2023. À quoi ça ressemble quand on a 20 ans de se projeter dans un monde où peut-être on travaillera jusqu'à 64 ans et où il y aura plus de ressources. Je suis désolée.
On travaille déjà jusqu'à 63,6 ans en moyenne.
Oui, avec une surcote.
Oui, peut-être.
C'est quand même une grosse différence.
Hein. Certes. Jérôme Lavrieux, est-ce que vous voyez un changement entre maintenant et l'avant-Covid ? Est-ce que vous trouvez qu'on est devenu feignant, paresseux ?
Pas du tout.
Merci.
Moi, je pense que c'est des trucs de bobos totalement anecdotiques de dire que les Français sont feignants, comme de revendiquer un certain droit à la paresse, à ne rien faire. C'est des épiphénomènes pour faire parler de soi, faire du bruit avec sa bouche et du vent avec ses bras. Les Français sont pas des feignants. Les Français sont des gens qui se lèvent tôt, qui bossent tous, qui essayent de bosser. Et c'est pas parce que vous avez 2 ou 3 abrutis qui vont vous dire « Ah mais moi, je préfère avoir le RSA et vivre dans une yourte et rien glander. » Ça ne représente rien du tout, sauf des abrutis. Il y a dans les chiffres qui sont vrais que nous a donné Rémi, il y a un effet de base. C'est parce que les Français, ils ont eu un choc de productivité quand il y a eu les lois Aubry qui ont fait qu'on est passé de 39 heures à 35 heures, où en fait, les gens, on leur a demandé de faire en 35 heures ce qu'ils faisaient en 39. Ce qui a amélioré fortement la productivité des Français, ce qui a été aussi une cause pour plus tard et dont on paye les conséquences maintenant d'une espèce de sentiment d'épuisement de beaucoup de monde. C'est la preuve que des mesures qui sont sociales sur le papier peuvent avoir des dégâts incommensurables après. Et que dire, moi, je suis de gauche, j'ai la valeur travail, j'ai le bien pour tout le monde. Et ben voilà, quand on a une belle mesure de gauche, qu'on la met en œuvre, on peut se la prendre en boomerang quelques années après. Et ça, c'est le premier effet de base. Et donc, on avait augmenté notre productivité, notamment vis-à-vis des Italiens et des Allemands. Le deuxième effet de base, comme l'a souligné fort justement notre arbitre à tous, qui est Rémi,
tout à fait.
C'est que les Allemands, depuis tout temps, ils ont une grande partie de leurs salariés, enfin de leur force de travail, qui sont des gens qui sont en alternance, en formation professionnelle. Et nous, on vient seulement de s'y mettre. Ça fait 3 ans, on est passé à plus 1,5 million. Troisième et dernier point, et après je me tais, je fais pas de politique politicienne en la matière, c'est que on a chez nous... Un sujet qui est un peu plus important, c'est que on n'arrive pas à se départir du débat dogmatique à chaque fois. C'est soit on est feignant, soit on est là pour enrichir un patron, soit etc. Je pense que c'est pas ça. Individuellement, les Français et collectivement sont des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie qu'on leur donne leur chance de travailler, qu'ils le font avec abnégation, y compris parfois quand ils ont affaire à des petits chefs qui essaient de les dissuader. Voilà.
Alors justement, c'est intéressant, on est avec Bilal qui nous appelle de Lyon et qui est gérant de société dans le service. Bonjour Bilal.
Bonjour Estelle, bonjour à tous les auditeurs RMC, bonjour à l'équipe.
Et merci d'être avec nous Bilal sur ce sujet. Est-ce que vous trouvez qu'on est devenu un petit peu plus feignant qu'avant ?
Alors cette question, vous la posez par rapport au constat que le PIB a baissé en France, on est d'accord ?
La productivité a baissé, pas le PIB, la productivité. C'est-à-dire qu'en fait on a moins de chômeurs qu'avant, mais on a aussi moins de productivité. Ce qui est étonnant, on a perdu 2,4 points de productivité depuis le Covid, alors que dans le même temps, l'Allemagne et l'Italie sont à des niveaux supérieurs depuis la période Covid. Je vous ai perdu ?
Non, pas du tout. Alors la question que je me pose réellement, c'est par rapport à la valeur ajoutée qu'on produit réellement en France. C'est-à-dire parce qu'on parle de l'Italie et de l'Allemagne, ce sont deux pays ultra-industrialisés. Nous, la France, on s'est désindustrialisé depuis, on va dire, 30 ans, 40 ans. Et forcément, si vous voulez, par rapport au type de travail que nous, on fait et que font, forcément, leur productivité est supérieure, puisqu'ils produisent plus de valeur.
Oui, mais alors, Bélène, sans se comparer à l'Allemagne ou à l'Italie, on va faire simple. Vous êtes gérant de société. Les gens que vous embauchez ou que vous voyez en entretien, est-ce que vous les trouvez plus ou moins motivés qu'avant? Est-ce que vous voyez une baisse chez eux? Et puis ceux que vous avez dans votre société, est-ce que vous trouvez qu'ils travaillent moins qu'avant?
Alors, moi, personnellement, non. Je constate que les gens travaillent pareil.
D'accord.
Par contre, ce que je peux dire par rapport aux gens que j'écoute, par rapport à mon entourage, etc., ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les gens, et ça se comprend, calculent avant de choisir un travail, par exemple.
De vérifier si
d'aller à ce travail, de faire ce travail, ne va pas lui coûter plus cher que, par exemple, que de ne rien faire pendant une certaine période, par exemple.
Mais ils pourraient accepter ce que vous dites de rien faire si le travail ne leur convient pas, quoi.
C'est pas que le travail.
C'est pas travailler pour travailler, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, il faut un sens, quoi. Ou que ça rapporte.
Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de travail qui, entre guillemets, ne donne pas de sens, en fait. Aujourd'hui, les gens, quand ils veulent faire quelque chose, ils ont envie de se donner un sens à leur vie. Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup de ce qu'on appelle des bullshit jobs, c'est-à-dire des boulots qui sont des travails de bureau.
Ils existaient déjà avant.
Mais sauf que si vous voulez, le Covid a un petit peu amplifié les choses. C'est-à-dire qu'avant le Covid, peut-être que les gens l'avaient moins remarqué. Avec le Covid, ça s'est davantage amplifié. Mais le problème, il est structurel, en fait. C'est un problème qui est très vieux. On a fait des choix économiques qui, en réalité, ne nous servent pas au final. Puisque la France, qui reste quand même un grand pays à la base industrielle, assez fortement désindustrialisé.
Ça, c'est sûr.
Et d'ailleurs, même la baisse du chiffre du chômage, c'est de la manipulation statistique. Parce qu'on sait très bien qu'en réalité, les trois quarts des gens qui sortent du chômage sont des gens qui sortent de Pôle emploi parce qu'ils ont soit dépassé le délai.
Oui, il y a un chômeur sur deux qui n'est pas inscrit à Pôle emploi. Qui ne touche pas d'indemnité.
Ou bien, ce sont des personnes qui se sont mis à leur propre compte. Mmh. L'ubérisation de la société, c'est pas un mythe.
En tout cas, ce que vous dites.
Si on veut parler de travail qui ne donne aucun sens, Uber, à ce niveau-là, ils sont pas mal.
En tout cas, vous, Bilal, voilà, en tant que gérant de société, vous n'avez pas vu de différence avec bon sens, l'avant-Covid. Allez, on va prendre Nathalie également, qui nous appelle de Saint-Sigismond, dans le Maine-et-Loire, et qui est chauffeur de poids lourd. Bonjour, Nathalie.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. J'adore avoir des femmes chauffeurs de poids lourd, parce que c'est rare et je trouve ça formidable, Nathalie.
Bravo, Nathalie.
On dit quoi, chauffeur ou chauffeuse poids lourd?
On dit plus ça, on dit conducteur et conductrice.
Et voilà.
Mais c'est vrai que c'est quand même plus simple. Vous avez raison, Nathalie. Nathalie, est-ce que pour vous, on est devenu plus feignant ou pas du tout? Est-ce que vous le voyez, dans votre domaine d'activité?
On le voit, puisqu'on ne trouve pas de chauffeur, parce qu'on fait trop d'heures, parce que ceci, parce que cela, parce que moi je veux rentrer à telle heure, et parce qu'à côté il y a ça. Mais quand on arrive dans un monde comme le nôtre, moi je parle pour ma... Je prêche pour ma paroisse, le monde du transport, on sait à quelle heure on finit, on ne sait pas toujours à quelle heure on commence, on ne sait jamais à quelle heure on va finir.
Ah ben c'est sûr.
Mais ça, c'est lié au transport. Les 35 heures dans le transport, on ne les a jamais vues. Ou alors... aujourd'hui, c'est pas de la... j'appellerais pas de la fainéantise, c'est un peu du gentoutisme. Je viens travailler si j'ai envie de travailler, c'est si ça. J'ai pas envie, j'appelle pas. Je préviens pas, je viens pas.
C'est
du gens-foutisme. Aujourd'hui, il n'y a plus la valeur travail, il n'y a plus la conscience professionnelle. Ça, ils n'en ont rien à faire de la conscience professionnelle. Quand on est des vieux cons comme nous, pardon pour le terme, moi j'ai plus de 20 ans de route, on a une conscience professionnelle, on a un respect du client et tout ça. Mais aujourd'hui, même dans les entreprises, ils nous disent... les gens s'en foutent. On travaille. Comment voulez-vous qu'une chaîne travaille, qu'une usine avance quand on a une mentalité comme ça?
Avez raison, Nathalie. Et c'est vrai que ce que souligne Nathalie est important, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les métiers difficiles, on parle du bâtiment, le transport, la restauration. Il y a plus de main-d'œuvre. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que on a moins envie quand même de travailler dur, on va dire.
Oui. Vous avez vu les cas entre chaque bus dans Paris et quelquefois les rames de métro, parce que il y a des affiches dans les bus.
Il y a plus de chauffeurs.
C'est quand même. Je ne dis pas que ce n'est pas pénible, mais bon, c'est quand même un boulot. C'est pas au fond de la mine en train de pousser des wagonnets. On trouve plus de gens qui veulent conduire des autobus dans Paris, alors que c'est une institution très très ancienne. Donc il y a bien quand même, à un moment donné, un recul de cette conscience, de cette envie de travailler. Et puis on commence à choisir, est-ce que ça a un sens? Mais la conscience professionnelle, c'est nous qui la donnons au sens que l'on donne.
Il y a un sens à tous les métiers. Hein. Je suis désolée, dans n'importe quel métier, on peut trouver un sens.
Alors,
je vous dis pas
y a une hiérarchie des sens.
Tout le monde n'est pas médecin de famille, mais il y a un sens dans tous les métiers.
Le sens, il est ce qu'on lui donne aussi. Enfin, s'il y a quelqu'un qui trouve qu'il n'y a pas de sens dans le métier qu'il fait, alors il a le droit, en fait.
Enfin, chauffeur routier, il y a un sens.
Et il a le droit d'en changer.
Chauffeur routier, il y a un sens.
Ça, c'est vrai.
Autobus,
exactement. Mais je pense que, par exemple, c'est typiquement le cas dans la restauration et dans le bâtiment. Il faut voir aussi les conditions. Non, mais je te dis pas qu'il n'y a pas de sens. Mais je te dis que c'est aussi normal que les gens, à un moment, se posent la question de leur intérêt à prendre un travail. Enfin, si.
À force de leur dire qu'ils sont exploités, malheureux, ils ne sont pas considérés.
Mais en fait, les gens qui travaillent dans le bâtiment, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'ils sont exploités. Ils savent qu'à 25 ans, ils ont de l'eau dans les genoux. Et qu'en fait, ils n'ont pas d'exosquelette par rapport à ce
certains croient. Et quand tu décides d'aller dans le bâtiment, tu sais très bien. Je veux dire que
il y a des gens qui n'ont pas le choix. Il y a des gens qui n'ont pas le choix.
Pourquoi ils n'ont pas le choix?
Pourquoi?
Il y a des gens qui ne choisissent pas. Alors
parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Tu veux dire?
Oui, parce qu'il y a des gens qui sont orientés de force dans le bâtiment, par exemple.
Attends, excuse-moi.
Mais si, ça s'appelle l'orientation subie. Oui, bien sûr, si t'as 18 de moyenne à l'école, qui a 18 de moyenne à l'école? On le sait, l'école française est la plus.
De moyenne à l'école.
Tu choisis ton métier. Tout le monde peut choisir son métier.
Non, c'est pas vrai. Si. Tout le monde ne peut pas choisir son métier. C'est le mensonge du quand on veut, on peut. Il y a plein de gens qui nous écoutent, je suis sûre, qui font un métier qu'ils n'ont pas choisi. Autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui travaillent en intérimaire dans une plateforme de logistique. Ils n'ont pas choisi cet emploi.
Pour faire autre chose. C'est ça que je te dis.
Comme
tu peux faire, aujourd'hui, tu peux faire des formations.
Ce serait beau.
Tu peux faire une école à 10 000 balles par an.
Et après, tu vas faire quoi? Et du coup, qui va faire ces tafs de logistique? Qui va devenir cariste? Qui va?
T'as des gens qui ont envie de devenir chauffeur routier.
Mais je ne te parle pas de chauffeur routier.
Et des robots, notamment.
Comment?
Et notamment des robots dans la logistique.
Oui, non, mais d'accord.
T'as envie de devenir chauffeur
routier. Juste une seconde.
Je comprends pas.
C'est ce qui explique une partie des chiffres de Rémi quand on compare avec l'Allemagne. L'Allemagne a un problème démographique. Sa population vieillit. C'est pour ça qu'ils reculent sans cesse l'âge de départ à la retraite. Et pourquoi il y a une densité plus importante dans la productivité? Parce qu'ils remplacent des travaux qui sont faits par des humains par des machines. Et donc, si tu calcules le PIB par humain qui est au travail, leur productivité augmente. Voilà.
Et par ailleurs, moi, je connais plein de gens dans le bâtiment qui sont très heureux
Que c'était un horrible métier. Je n'ai pas dit ça.
Tu as l'air de dire que c'est horrible.
J'ai dit que c'est un métier qui est usant et que ça n'est pas toujours un métier qui est choisi. Et que par ailleurs, être restaurateur et travailler en extra dans la restauration, ça n'est absolument pas la même chose, il n'y a pas les mêmes coûts, il n'y a pas les mêmes avantages.
Tu peux aussi espérer à un moment être restaurateur et faire une formation dans les métiers de la cuisine.
C'est aussi normal que les gens à un moment se posent la question du métier qu'ils font et des conditions dans lesquelles ils l'exercent.
Très bien.
Ben voilà, à force de poser la question, on a la productivité qui s'effondre.
Voilà, moi, je connais.
Elle s'effondre pas. Pardon, la dramatisation absolue elle ne s'effondre pas.
Après, je suis désolée, moi, je connais un garçon qui s'appelle Norbert Tarrer, qui est devenu très célèbre par rapport à Top Chef. Norbert, il a commencé en épluchant des légumes à Londres, dans un restaurant. Il est arrivé à Londres, il avait pas une thune. Il est arrivé, il a commencé à éplucher des légumes.
Et alors,
un mois plus tard, il a commencé à faire la cuisine, etc. Aujourd'hui, il a la tête de je sais pas combien de restaurants.
D'accord, c'est une star.
C'est qu'à un moment, mais non, ce conte de fées, il peut arriver, je veux dire, à plein de gens. Tu ne fais pas nécessairement le même métier toute ta vie.
C'est un beau monde dans lequel vous vivez.
Je trouve que c'est une belle histoire.
La France victorieuse, c'était que des gens.
C'est pas un monde soviétisé.
Je voudrais qu'on prenne Thibault Langsade en ligne. C'est notre invité sur ce débat. Il est chef d'entreprise et ancien vice-président du MEDEF. Bonjour Thibault Langsade.
Bonjour.
Bon, on n'a pas tout à fait la même définition du travail sur ce plateau, mais c'est souvent le cas dans Estelle Midi. Est-ce que vous trouvez, vous Thibault Langsade, que finalement on est un petit peu plus feignant qu'avant la période Covid?
Non, je crois pas, mais ce qui est évidemment un sujet qui est la baisse de productivité. Et j'ai envie de dire, si je vais un peu plus en profondeur, ce qui a été très justement dit par vos chroniqueurs, notamment par Jérôme Lavrieux, si on veut prendre une analyse macroéconomique, nous avons de façon très structurelle un manque d'investissement dans les entreprises. Nous avons une problématique de recherche et développement. Et quand on regarde les secteurs où la productivité a baissé fortement, c'est essentiellement dans l'industrie. Les énergies, la fabrication de matériel, le transport, l'automobile, où là, effectivement, nous avons un impact très fort sur le PIB, et ce sont ces secteurs-là. Alors après, quand on regarde de façon plus micro, il est clair que quand vous avez une situation de plein emploi, ce qu'on s'apprête à avoir, eh bien, vous avez des difficultés de recrutement. Et derrière ces difficultés de recrutement, vous avez de l'employabilité qui est complexe. Quand vous êtes une entreprise et que vous avez besoin énormément de recruter et que vous n'avez pas toute la population formée, enfin, toutes les personnes formées, eh bien, dans ces cas-là, vous prenez des profils plus atypiques, plus à l'écart de ce que vous allez leur donner, puis vous allez prendre du temps pour les former. Alors oui, il y a l'impact de l'alternance, de la formation professionnelle, d'ailleurs plutôt une bonne chose, hein, oui. Il faut qu'on rattrape l'écart par rapport à l'Allemagne. Donc oui, on a doublé depuis ces dernières années, c'est une bonne chose pour les jeunes, mais très concrètement, on a des entreprises qui n'ont pas passé le cadre de la digitalisation, je pense notamment aux PME, aux ETI, qui ont besoin d'accélérer, l'industrie qui a besoin d'avoir davantage de R&D, davantage d'investissement par rapport aux Japonais, par rapport aux Allemands, et ça a été très justement dit, et donc c'est là où on a une vraie baisse de la productivité. Ramener à cela, est-ce que les Français, on va dire, il y a un désamour sur le travail? Je ne crois pas, compte tenu du fait que dans cette situation de plein emploi, eh bien, tout de même, les entreprises continuent à embaucher avec un vrai sujet qui est l'employabilité. Et si vous êtes embauché parce que, un, il faut vivre et deux, l'entreprise a besoin de recruter et que, on va dire, le matching ne se fait pas bien, eh bien, là, il peut y avoir des vrais sujets de productivité ou, ce qui a été dit également, pas la volonté de travailler à fond parce que c'est pas tout à fait un job qui correspond à ce à quoi vous êtes formé avec, voire même le sentiment de déclassement. Et j'ai envie de dire que cette problématique-là va probablement s'accentuer compte tenu du fait que pour le moment, nous nous orientons dans une dynamique de plein emploi et donc il nous manque des personnels formés. La clé reste dans la formation professionnelle, bien évidemment dans l'employabilité des salariés délivrés dans leur cursus. Et c'est un sujet qui se traitera progressivement dans le temps sans remède miracle, qui est tout simplement de remettre de l'argent en investissement fort dans les entreprises et puis de se concentrer sur le secteur industriel.
Et Thibault Langsade, petite question tiens, pour l'ouvrir l'après. Est-ce que les jeunes sont aussi productifs que les vieux?
Ben, les jeunes sont aussi productifs que les vieux à partir du moment où, on va dire, qu'ils ont une dynamisme et puis une employabilité qui est très forte. Le tout, c'est de s'assurer que le jeune qui arrive en entreprise soit employable immédiatement. Bon, et pour le moment, quand on voit les cursus pédagogiques, quand on voit les difficultés des CFA, on va dire, dans leur financement, pour qu'elles produisent des jeunes prêts à
arriver en entreprise,
on a encore une inadéquation. Moi, je regarde juste une chose, c'est qu'on est dans un pays de dingue. On n'a jamais mis autant de dispositifs sur les jeunes dont on a énormément besoin de leur vitalité. Et donc, ça devrait être naturel pour les entreprises. Et dans la période que nous vivons, on n'a jamais mis autant de dispositifs sur les seniors dont on a besoin de conserver leur expertise. Donc, c'est un truc où on marche sur la tête. Il faut aider impérativement les jeunes par tous les dispositifs d'aide, d'allègement de charges, alors qu'on en a cruellement besoin. Et puis, on nous parle de faire partir les seniors plus rapidement, alors qu'on a énormément besoin de leur expertise.
Ben merci beaucoup Thibault Langsade, c'était très très clair. On va terminer avec des messages, Rémi, et puis le résultat de notre sondage. Les Français sont-ils devenus feignants?
Allez, ce message de Tuc Duval qui nous dit: bonjour l'équipe, je fais ce qu'il faut pour tenir les délais pour la production, mais pas plus. Je m'en fous de la retraite. C'est plus important pour moi de mener une bonne vie plutôt que de me saigner pendant encore 30 ans pour une retraite à attendre.
Voilà. Respectable, ok.
Et la productivité, bon voilà. Et
bon, ben, la productivité est pas salace, là, c'est sûr. Oui.
Bon, ben... oui, les Français sont-ils des feignants?
Louis,
on est sévère.
Moi, je pense que ça va être oui.
C'est non.
C'est non.
Voilà. C'est non. Bah, c'est le nom qui l'emporte pour 61%.
Bah, les gens savent, je crois que c'est la marge d'erreur.
Mais les Français non, mais attendez. les Français ne sont pas des feignants.
Évidemment.
Il y a de plus en plus de feignants en France.
D'accord. Mais ça, c'est, tu sais, ça, c'est ton idéologie, Perico.
Encore une fois,
non, mais ne présente pas les choses comme la vérité.
Tu sais quoi, je pense qu'en 68, on le disait déjà.
Et en 68, tu étais déjà là sous les pavés de la plage.
Est-ce que je peux lancer le zapping?
Oui, allez-y.
Je vais vous dire ce qu'il y a. Dans un instant, Jérôme Lerrieux nous dira s'il y aura remaniement du gouvernement. Il a plein info à ce sujet.
Il a sa boule de cristal.
Pour Loumire la presse, c'est juste pour elle. Les vacances sont-elles désormais aux riches, réservées aux riches, pardon. Et puis encore pour Loumire, les méga-bassines sont-elles vraiment un désastre écologique?
Oui.
Et puis enfin, tiens, quelle voiture il faut posséder pour être sexy? Dis-moi,
pas un SUV.
Dans quelle voiture tu es et je te dirai si tu es sexy.
Si vous voulez dater un écolo,
à
pas
tout
de
suite.
SUV.
Sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
33 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi, toujours en compagnie de Rémi Barré, de Perry Collégas, de Loumière Laprès et de Jérôme Lavrieux. Et tout de suite, c'est le moment du meilleur d'RMC, le zapping, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
On commence tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Faut-il espérer un remaniement du gouvernement très fragilisé par la réforme des retraites? La première ministre, Elisabeth Borne, a invité les députés opposants à venir discuter. Mais cela s'annonce comme un flop puisque la plupart déclinent l'invitation. Normal pour le cheminot DGG Bruno Poncet qui souhaite un remaniement.
Tu sais, fait comme elle a dit au syndicat, vous venez, mais on parle pas de la retraite, on parle d'autre chose. Non, mais à un moment donné, c'est pas sérieux. Mais, enfin, et en plus, tu vois, ils ont raison. Après, moi, je pense pas que Macron, ça change les choses, mais à un moment donné, Madame Borne, c'est fini, on oublie. Au-delà de la réforme des retraites, t'avais quand même problème de pouvoir d'achat. Les déserts médicaux, c'en est un. T'as beaucoup de, l'hôpital français souffre depuis des décennies. Ouais. Et là, il y a des choses à faire. Et tu, enfin, c'est des sujets comme ça. Si t'es même pas capable d'écouter les gens, c'est qu'à un moment donné, tu représentes personne. Eux, ils représentent plus qu'eux. Hein. Je pense que ça fait un bouton que tout le monde s'en est rendu compte. Hein.
Jérôme Lavrieux, vous qui êtes dans les petits papiers de la politique encore. Jérôme, remaniement ou pas remaniement?
Je prends pas de risque en disant qu'il finira par y avoir un remaniement.
Oui, ça vous demande ça.
Alors, remaniement, c'est différent de changement complet de gouvernement et de chef de gouvernement. Oui. Je pense qu'Elisabeth Borne va rester première ministre pendant encore un petit bout de temps.
Mais un petit bout de temps, c'est en mois ou en année?
Bon, au moins jusqu'à la fin de l'année, voire un peu plus.
D'accord.
Si vous la virez maintenant, c'est que vous dites que c'est elle la responsable de la situation sur la réforme des retraites. D'accord. Alors que, en fait, elle a appliqué ce qui était dans le programme du président de la République. Donc ce serait fort de café de la rendre responsable du sujet. Après, un remaniement, oui, parce que il y a plus de 40 ministres, si ma mémoire est bonne.
43, je crois.
43. Je pense qu'autour de la table, on va en citer une dizaine, à peu près spontanément. Donc ça veut dire que le reste, voilà, il va falloir faire un peu de turnover dans la boutique pour redynamiser un certain nombre de secteurs. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir comment ce gouvernement ou son successeur obtient une majorité texte par texte ou alors en global pour faire avancer les réformes dont notre pays a besoin. Parce que tous les sondages disent que le gouvernement n'est pas populaire, mais tous les sondages disent qu'en cas d'élection législative anticipée, on aurait la même morcellisation à l'Assemblée nationale. Oui, mais personne n'aurait de quoi fermer un gouvernement et d'être majoritaire. Il faudra bien que le pays soit dirigé.
On remanie ou on remanie pas Lumière Laprès?
Bah, pourquoi faire? En fait, je pense que c'est ce qu'on se disait la semaine dernière en parlant. Je crois que le désaveu, il est plutôt du président. Donc, il aura beau changer deux, trois têtes. Pour moi, ça changera rien au problème.
Eric Olegas, vous êtes d'accord avec ça?
C'est inévitable. Il va pas le faire parce qu'il est sous pression. Il a dit, il va pas le faire. Il a dit que c'était hors de question. Parce qu'il n'est pas
pour lui. Il avait dit qu'il n'était pas pour le 49.
Non,
fois,
mais c'est une porte de sortie tellement intelligente qu'il aurait. Voilà, le projet est abouti, il est voté, on en fait ce qu'on veut. Il y a un nouveau gouvernement qui va le porter, qui va le traiter. Et c'est l'occasion, bien sûr, d'élargir la majorité. Si on peut, aux amis de Jérôme, les gens du LR qui sont encore utiles, qui peuvent avoir une utilité. Et à ce moment-là, on trouve une majorité un peu plus stable. Peut-être pas absolue.
Pas membre de LR,
Oui, mais enfin, c'est quand même...
Pas plus du Modem ou d'autres choses.
Mais je sais bien, mon grand. Voilà, pour l'instant, tu es là. Donc, je pense que c'est une issue politique intelligente qui ferait du bien au pays. Ça peut nous permettre d'avoir un Premier ministre.
Nouvelle ère.
Ben, en plus, elle l'a contrarié, elle a dit qu'elle voulait plus de 49-3. Sous-entendu, on me l'a imposé, je voulais pas le faire. Il est absolument furieux à cause de ça.
Non, mais elle a dit plus de 49-3 hors texte budgétaire.
Oui, mais ce qui est normal.
Voilà. Elle en a pas utilisé donc, hors texte budgétaire. Donc
je dis que c'est
sujet.
Une nécessité, que c'est une porte de sortie et que ça peut ouvrir des perspectives pour la cohésion du pays, pour une stabilité institutionnelle qui serait intéressante.
Mais tu penses que changer de Premier ministre et de 2-3 ministres, ça va donner envie aux gens de travailler 2 ans de plus? Parce que moi, je ne crois pas.
Tu as raison. Le remaniement, c'est on change quelques ministres avec le même gouvernement. Là, on change de gouvernement et on change d'orientation et on change de discours.
Avec un parti qui a fait 5% à la présidentielle, je ne sais pas si c'est ça le plus populaire, mais bon.
Une majorité. Attends, il y a une institution qui est l'Assemblée nationale.
Oui.
Tu composes ta majorité. Ça s'appelle un pacte de gouvernement.
Merci.
C'est tout ce qu'il y a de plus démocratique. C'est plus légal. Toutes les démocraties européennes, tout se passe bien, parlent comme ça. Donc j'invite avec Jérôme, le président de la République,
à
trouver un nouveau Premier ministre, et vous, Estelle, si vous joignez Lumière, on ait un nouvel élan, et ça sera la solution pour sortir de la crise dans laquelle, le merdier dans lequel on s'est mis, est un bourbier.
Laissez-moi parler de ça, merci. ce matin sur RMC. Les vacances sont-elles désormais réservées aux riches? On vous en parlait hier, tiens d'ailleurs, dans Estelle Midi, les réservations sont en chute libre dans toute la France, jusqu'à 40% de baisse en un an dans certaines régions, en cause bien sûr l'inflation, mais également les pénuries d'essence qui limitent les déplacements. Et c'est un vrai problème pour le cheminot DGG Bruno Poncet.
Les vacances, c'est pas pour dire que c'est un truc de riche, mais à un moment donné, ça va le devenir. Parce que les gens qui essayent un peu de faire des pauses, à un moment donné, tu vas te dire quoi? Tu veux pas reprendre en vacances? Donc, tout augmente. Les gens, ils vont mettre l'argent dans ce qui est nécessaire et utile. Quand on entend que des gens, ils peuvent même plus acheter leurs produits d'hygiène et de beauté, c'est qu'à un moment donné, on arrive vraiment dans un gros problème.
Loumir, est-ce que les vacances sont désormais réservées aux riches? C'est trop cher les vacances?
Ben malheureusement oui, et surtout c'est pas un phénomène récent. Il y a déjà 2 Français sur 5 qui, avant les différentes crises qu'on a vécues, ne partaient jamais en vacances. Et je trouve que c'est vraiment très triste parce que pour le coup, c'est quand même un acquis, un conquis social, cette capacité de prendre des vacances, de se reposer, de voir autre chose et de voir que des gens qui travaillent n'arrivent pas à partir en vacances. Moi, ça me brise le cœur. Je me dis comment c'est possible dans la 6e puissance mondiale que des gens qui se lèvent tous les jours pour aller bosser n'arrivent même pas à prendre une semaine de vacances au camping. Enfin, on parle pas non plus de prendre un jet pour aller à New York, quoi. Là, on est dans une situation dramatique où tout ce qui est superflu, tout ce qui est du beau, du joli, de l'agréable, est sacrifié au profit du nécessaire parce que c'est tout ce que les gens peuvent faire.
Vous faites bon de la tête, Jérôme Lavrieux?
Non, parce qu'en fait, jamais 100% des Français n'ont pris des vacances.
Oui,
jamais.
Non, bah, oui.
Deux Français sur 5 avant la crise.
Jamais l'ensemble des Français n'ont pris de vacances, ne sont partis en vacances. Et je rappelle que la première destination de vacances des Français, c'est partir en France chez des amis ou de la famille. Ça n'est même pas d'aller dans un camping. Les campings, ça fait longtemps que tu n'as pas dû y aller. C'est pas forcément forcément le truc le moins cher de la terre.
Ah, moi, je fais un camping en tente.
De loin, s'en fout. Même en tente. Parfois, il y a des gîtes qui sont moins chers que certains campings.
Est-ce que le tien en fait partie?
Non, oui, le mien est cher, mais j'ai pas augmenté mes prix par rapport à l'année dernière.
Continuez.
Ceci étant, le principal obstacle au départ en vacances, pour l'instant, de la part de ceux qui avaient l'habitude d'aller en vacances, c'est l'incertitude. L'incertitude sur savoir est-ce qu'on aura un train, l'incertitude de savoir est-ce qu'on pourra faire le plein de sa voiture, l'incertitude de savoir est-ce qu'on aura un avion. Et pas forcément un problème uniquement budgétaire chez ceux qui avaient déjà l'habitude de partir en vacances.
C'est des grèves.
Moi, ça fait depuis très longtemps, ça fait 2 week-ends de suite où je n'ai pas eu de réservation chez moi. Parce que les gens ont l'incertitude de prendre un train.
Et leur train mais toi, tu as une clientèle qui est un peu particulière quand même.
Le camping que tu fréquentes, les gens, ils y vont pas par téléportation. Ils y vont en prenant leur voiture. Même si c'est un vieux diesel tout pourri qu'ils peuvent pas remplacer. Et le prix à la pompe, pour eux, il est le même. Et surtout, plus que le prix à la pompe, c'est de savoir est-ce que j'aurai de l'essence pour y aller? Est-ce que j'aurai de l'essence pour repartir? Parce que si je repars pas à temps, mon employeur, il va me dire, bah, t'es gentil, abandon de poste. Tu dégages. Et donc, c'est l'incertitude qui crée ça. C'est pas forcément la baisse du niveau de vie, parce qu'on peut s'adapter, partir un peu moins loin, un peu moins longtemps, moins cher, même si je rappelle que la première destination, c'est pas Saint-Tropez,
c'est pas les Baléares,
c'est pas autre chose.
C'est la Bretagne,
c'est
pour les vacances de Pâques.
Bretagne
et Normandie. Péricot, les gars, est-ce qu'il faut justement, notamment, je pensais aux grèves, hein, là, il y a une journée de mobilisation le 6 avril, les vacances pour la zone A, c'est le 7. Est-ce qu'il faut. Là, juste faire une petite pause dans les grèves. En tout cas, la SNCF, il y en a un petit peu moins dans les avions pour au moins permettre aux Français de partir en vacances. Je pense aussi au blocage des raffineries.
Les deux observations de Lumière et de Jérôme sont pertinentes.
Tout à fait.
Et moi, je vous sors dans la continuité de votre question un troisième élément. Je connais des gens qui, n'ayant pas pu partir en vacances à cause des grèves, ça a accumulé un budget qu'ils n'ont pas dépensé. Il me dit, grâce à ça, grâce à la CGT, on va pouvoir partir en vacances. Parce qu'ils n'ont pas dépensé l'argent du tout. Et voilà.
Merci Sophie.
Mais c'est vrai que pendant les vacances scolaires, là, on sort d'une période de trouble. Et voilà, le monde syndical serait avisé de laisser les Français...
J'ai pas l'impression que ce soit la tondeuse.
Oui, il y a une nouvelle présidente de la CGT, Sophie Binet, et ça m'étonnerait que la première mesure de la CGT soit de lever tous les piquets de grève.
Elle prendra ses responsabilités, mais là, le monde syndical a plutôt gagné de la confiance, de la considération de la part du monde des travailleurs. Et si on tombe dans les vieux clichés de confrontation, le rousseauisme, ils vont reculer. Ils étaient à 10%, 10-12. On va repartir en arrière. C'est dommage, ce suicide du syndicalisme français. Ces gens, c'est harakiri. Voilà, non mais c'est un autre paramètre.
Idée, faut être un peu
le droit aux vacances, c'est un droit sacré quand même.
Bon. Les GG ce matin sur RMC, les méga-bassines sont-elles vraiment un désastre écologique très décrié par les écologistes? Elles sont défendues par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui affirme que la création de ces réserves d'eau aura des conséquences positives, ce que partage bien entendu l'agriculteur des GG, Didier Giraud.
Quant à ce qui est à Sainte-Soline, il y a 15 ans de travail. Il y a 15 ans de travail de la police de l'eau, de syndicats d'aménagement, de gens qui ont besoin d'eau et qui étudient le territoire et l'hydrographie pour savoir comment et quand la prélever et comment et quand la rendre, quoi. À un moment donné, moi, c'est simple, le truc, je vous le pose sur la table, amis consommateurs. Il y a 2 solutions. Soit vous voulez continuer à bouffer et vous nous cassez les bonbons sur l'indépendance alimentaire et auquel cas, vous nous donnez les moyens de vous donner à bouffer, soit vous bouffez du poulet javelisé du Brésil et puis du soja qui vient d'Amérique du Sud ou de la forêt amazonienne, quoi.
Voilà, l'agriculteur des GG, Didier Giraud, très remonté contre les écologistes dont vous faites partie, Loumière Laprès. Juste, en quoi, pour vous, les méga-bassines, c'est un désastre? Quand on écoute Didier, on se dit, bah oui, c'est juste une réserve d'eau pour les agriculteurs avec, qui ont besoin d'eau, bien sûr, pour leur culture ou leur bétail. On ne voit pas forcément le souci.
Oui, oui. Et bah d'ailleurs, moi, au début, je me disais, ben enfin, pourquoi tout ce foin pour une bassine? C'est vrai que ça fait sens. On se dit, on va prendre de l'eau en excès en hiver. Quand il y en a, on va la stocker puis on l'utilisera en été.
Ben oui.
Bon, alors sauf que dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que on ne retient pas l'eau, on la pompe dans les nappes phréatiques. Donc on la pompe en hiver au moment où la nappe phréatique est censée se remplir et
la
que
la pluie ne suffit pas.
La pluie, pluie ne suffit plus. Normalement, en hiver, il pleut, la nappe phréatique se remplit, et en été, quand il y a moins d'eau, on pompe dans la nappe phréatique et tout le monde peut se doucher, boire, etc. Et les agriculteurs, d'ailleurs, arroser leurs champs. Donc on s'est dit, ok, on va faire un grand trou, parce que c'est quand même ça, hein, et puis on va pomper tout le temps de l'eau dans la nappe phréatique qui, elle, du coup, ne va pas se remplir. Et ça vous a pas échappé qu'on a eu 23 jours sans pluie et qu'on est déjà dans 31 jours sans pluie et qu'on est déjà dans une situation de ce qu'on appelle le stress hydrique. Ensuite, dans ce grand trou, en fait, l'eau, elle n'est pas stockée, donc elle va s'évaporer. D'accord. Vous imaginez, c'est comme un grand terrain de foot où non, mais si, ça s'est avéré. Non, mais là, on est sur de la profondeur qui est bien moindre qu'un barrage. Donc voilà, en fait, l'eau va s'évaporer. Et surtout, et c'est ça qui est le plus important, ça pose la question de l'accès à l'eau. Qui a accès à l'eau? En réalité, et moi c'est vraiment quelque chose que je veux dire ici, on dit les agriculteurs. Ça n'est pas les agriculteurs qui vont avoir accès à ça. C'est ceux qui auront payé pour la construction de la bassine, et c'est environ entre 3 et 6% des agriculteurs. D'accord. Il y a de très nombreux agriculteurs qui sont contre les bassines. Il y avait d'ailleurs
Ce sera les
plus gros agriculteurs qui ont l'argent pour investir là-dedans et d'accord, qui arrosent beaucoup, c'est-à-dire les céréaliers. Et aujourd'hui, moi je suis bien placée, je viens d'une zone qui s'appelle la Plaine de l'Ain où on ne fait pousser que du colza et du maïs, donc on est largement concerné. Aujourd'hui, ça sert à arroser des champs de maïs qui servent à nourrir des bêtes. D'accord. Donc en fait, ça ne permet pas de manger, ça n'est pas ça qui nous nourrit, c'est pas du maraîchage, c'est pas des légumes. Non,
il peut
c'est
nous
pas
arriver
des
de manger les bêtes hein, aussi.
Bien évidemment. Non, mais je ne te dis pas le contraire, mais je te dis que ce qu'en fait, tout ce que ça fait, c'est repousser le problème à plus tard. C'est capter l'eau qui va exister pendant les quelques années où on va avoir assez d'eau pour la capter. D'accord. Et puis après, ça repousse le problème. On privatise l'eau au détriment de plein de gens.
Le très rapide. Il y a des bassines formidables qui sont dans des endroits où elles sont très utiles et qui participent à une bonne agriculture. Il y a des bassines qui sont là juste pour enrichir des agriculteurs industriels. Alors, c'est pour faire du maïs pour nourrir les vaches. Mais est-ce qu'on peut juste remettre de la vache au pré?
Exactement.
Pas besoin de maïs.
Exactement.
Vous voyez ce que je veux dire? Il faut repenser
c'est
là.
Très clair.
Et il y a des bassines qu'il faut défendre qui sont dans des endroits où il y a de l'eau phréatique. Et puis il y en a d'autres qui sont des désastres écologiques.
Et je précise d'ailleurs que
je peux pas la défendre. Mais j'en défendrai d'autres. Que tes campagnes iront quand même possible t'attaquer. C'est là où on pourrait être. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais elles sont illégales. Hein. Je précise quand même que d'accord, les cours de justice ont dit qu'elles étaient illégales.
Non,
et
non,
l'État,
pas celle de Sainte-Soline.
Une grande majorité.
On n'est pas là pour raconter des fake news. Celle de Sainte-Soline, elle a gagné toutes les procédures judiciaires qui ont été faites.
Une majorité. Oui, Sainte-Soline, oui. Une majorité des bassines.
On avait détruit quelque chose qui est légal.
Mais on n'a pas détruit. Il y avait un trou. Enfin, on ne va pas se relancer sur ça.
On va revenir.
Juste quelques voitures qui ont brûlé. C'est pas.
Il y a eu des détériorations sur les canalisations.
Allez, je voudrais quand même.
Oui, c'est l'objectif.
Rapidement,
c'est
je voudrais quand même qu'on utilise un dernier extrait. Quelle bien voiture sûr faut-il posséder pour être sexy? Un site de rencontre britannique a découvert que les photos de profil d'hommes avec une voiture attiraient, mais c'est extraordinaire, particulièrement les femmes. Mais attention, pas n'importe quelle voiture et peut-être pas n'importe quelle femme, comme nous l'a expliqué ce matin Charles Magnan.
Avec cette étude britannique qui montre que les hommes propriétaires de voitures électriques sont jugés comme beaucoup plus sexy par les femmes sur les applications comme Tinder. Oui, je vois Nicolas qui hoche la tête.
Et là, Nicolas est très content parce que Nicolas a une voiture électrique.
Et oui, il est beau gosse.
Et ouais,
sondage mené auprès de 2000 utilisatrices britanniques. Elles sont 36% à déclarer qu'elles auraient plus envie d'avoir un rendez-vous galant avec un homme qui conduit une électrique. Avec deux arguments, ça montre qu'il se préoccupe de la planète et qu'il a les moyens de s'acheter une voiture à un certain prix.
Voilà, messieurs, si vous possédez une voiture électrique, vous aurez plus de chances d'être en couple que si vous possédez un vieux moteur diesel. Bah oui, c'est la. Eh oui, Perico.
Et un SUV, c'est encore pire alors.
Et alors, un SUV diesel, ça marche pas du tout. Mais un SUV électrique, pourquoi pas?
Allez, dans un instant. Sauf que c'est pas bon pour l'écologie.
Vous dénigrez les femmes en disant ça. La femme est beaucoup plus noble que ça.
Ok, dans un instant, le rendez-vous des notaires, comme chaque vendredi, on se demandera si c'est intéressant, tiens, d'avoir une SCI familiale. Beaucoup de gens se posent cette question, on y répondra dans un instant. Et puis, on se demandera également à partir de 14h si c'est la fin des résidences secondaires. Les prêts ont été refusés pour des résidences secondaires à 70%. C'est assez énorme. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h52 sur RMC, RMC Story, on est vendredi et le vendredi on accueille des notaires dans cette émission. Le rendez-vous des notaires, c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
Les notaires vous répondent.
Et aujourd'hui on est avec Maître Édouard Grimont, notaire à Lille. Bonjour Maître.
Bonjour.
Et vous allez devoir répondre à cette question. Bonjour Estelle et bonjour toute l'équipe. Un ami m'a dit qu'il avait fait une SCI familiale et qu'il en était très content. Comment est-ce que ça se met en place concrètement et dans quel cas c'est utile? J'envisage de faire ce type de SCI avec mes enfants. C'est une question de Jean, il a 62 ans Maître.
Eh bien la question de Jean est très intéressante puisqu'elle nous est posée quasiment quotidiennement dans nos études. Est intéressante à double titre. Le premier, c'est effectivement, ai-je besoin d'une société civile? À quoi cela peut-il me servir? Et puis la deuxième question, c'est souvent, mon voisin en a une. Moi, je veux exactement la même chose que mon voisin. Ah. Et un petit côté gadget.
Peut-être pas avec la même famille.
Alors, pas avec la même famille. Ce serait plutôt compliqué. Mais il y a un petit côté gadget que les Français aimeraient bien avoir comme les autres.
Mais c'est quoi une SCI familiale déjà?
Alors, une société familiale, c'est un contrat tout d'abord que plusieurs membres d'une même famille peuvent signer. Alors, c'est généralement jusqu'au quatrième degré, c'est-à-dire ses enfants, les petits-enfants, on peut monter aux parents, et sur les côtés, les frères et sœurs. La société permet de détenir un patrimoine, un outil de détention et de gestion du patrimoine, par opposition avec l'indivision, qui est le fait pour plusieurs personnes de détenir un droit de propriété tous ensemble sur un même bien. Elle présente un avantage de stabilité. Le Code civil dit qu'on ne peut pas être obligé de rester dans l'indivision. Il y a une action, par exemple, devant le tribunal qui permet d'en sortir. Eh bien, la société civile permet d'éviter cet écueil et d'assurer la pérennité de la propriété sur le long terme.
Alors, nous, on est très concret. Concrètement, en fait, on veut acheter une maison de famille, par exemple. On va parler des résidences secondaires dans un instant. Donc, on veut acheter une maison de famille et au lieu de l'acheter, on va dire classiquement, là on se dit on va faire une SCI familiale et on va mettre, par exemple, je dis n'importe quoi, mais les parents et les quatre enfants.
Tout à fait.
Par exemple. Mais est-ce qu'il y a un avantage à faire ça?
Alors l'avantage tout d'abord, c'est la pérennité dans la propriété. Aucun des enfants ne pourra contraindre les autres de vendre l'immeuble pour sortir de l'indivision. Le deuxième avantage, c'est la gestion courante du bien. En matière d'indivision, il y a des règles qui sont soit l'unanimité, soit des règles de majorité assez fortes. Les statuts que vous signerez avec vos enfants vous permettront d'avoir une règle de majorité simple. Le fait d'avoir 51% seul vous permettra de décider de tout ce que vous voulez dans la société. Et puis la société civile, ensuite, elle présente l'avantage en termes de transmission.
D'accord.
C'est beaucoup plus facile de transmettre des parts et d'avoir des chiffres entre guillemets ronds sur des parts de société que sur un immeuble qu'on s'imagine mal, on va dire, tronçonné en termes de propriété. Et puis il y a un autre avantage également en termes de transmission, c'est ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Les parents, classiquement, aiment bien conserver ce qu'on appelle l'usufruit de la chose, l'usage de la chose, pouvoir en profiter ou percevoir des revenus, vous avez raison. Et puis ensuite, c'est la nue propriété, le fonds de propriété qui appartient aux enfants. Premièrement, le jour où les parents veulent vendre, il faut que tout le monde soit d'accord autour de la table pour vendre. En matière de société, vous pouvez organiser les statuts de telle manière à ce que les parents usufruitiers conservent les pleins pouvoirs et puissent décider seuls, sans l'accord des enfants, de vendre. Ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, il est fiscal. Quand vous transmettez un immeuble, imaginons la maison vaut 800 000 euros, eh bien vous donnez pour 800 000 euros. Même si vous avez fait un prêt, par exemple, de 700 000 euros en face pour financer, l'administration fiscale va pas vous dire c'est 800 000 moins 700 000, la donation porte sur 100 000. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, en matière de société, quand vous donnez des parts, la société, il y a un bilan, un actif, 800 000, un passif, 700 000, et vous pourrez transmettre la valeur des parts. C'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus intéressant fiscalement, vous transmettez en quelque sorte à moindre frais. Donc c'est un bel outil de transmission également.
Voilà, et puis si vous voulez plus de renseignements, vous allez voir votre notaire, évidemment. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Une seule adresse, notaire@rmc.fr. Merci beaucoup Maître.
Merci beaucoup
d'avoir été avec nous. Dans un instant, on se posera cette question. Est-ce la fin des résidences secondaires? 70% des prêts immobiliers pour des résidences secondaires sont refusés actuellement par les banques. Dites-nous si vous avez dans l'idée de vous offrir un pied-à-terre et que vous n'y arrivez pas, ou si au contraire vous voulez vendre parce que c'est trop de tracas. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de tracas pour les résidences secondaires. A tout de suite sur RMC dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.